Europe 1, 14h-15h, clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Et aujourd'hui, dans notre récit, on va s'intéresser aux dialoguistes, avec cette double actualité. D'abord, la disparition de Jean-Pierre Bacri, dialoguiste hors pair.
Ah, quel mépris! 2 heures de retard, et pour finir, un prétexte débile, trouvé à la va-vite. Il découvre les embouteillages. À Paris, il y a des embouteillages. Non, non, tu comprends, être en retard, ça fait riche. Ah, évidemment, hein, c'est le monsieur qui passe à la télévision. Belle affaire.
Et puis, deuxième actualité, la sortie d'un coffret DVD 100 ans de Michel Audiard chez Gaumont. Alors, 35 ans après sa mort, pourquoi les dialogues d'Audiard nous fascinent-ils toujours autant?
Ça court les rues, les grands cons.
Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon.
Et qu'est-ce qui fait qu'on s'en souvient encore de ces dialogues? Qu'est-ce que les dialogues d'Audiard racontaient de notre société? Et pourquoi sont-ils plus que jamais d'actualité? On répondra à ces questions et on recevra Thomas Bideguin, scénariste dialoguiste qui a notamment beaucoup travaillé avec Jacques Audiard. Il nous racontera son métier. 14h30, votre rendez-vous, les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Charlotte Gainsbourg qui a accepté de répondre à notre questionnaire de Proust version cinéma. Alors justement, quel est son premier souvenir de cinéma?
Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage?
C'est exact.
Ce requin, il avale tout ce qu'il voit.
Et oui, les dents de la mer que sa mère, figurez-vous, l'avait emmené voir. Elle avait 4 ans. La suite de ce questionnaire de Charlotte Gainsbourg, c'est donc à 14h30. Et puis juste après, j'accueillerai mes collègues critiques. On débattra des films qui sortent sur vos plateformes ou en DVD-VOD. Avec au programme aujourd'hui Coco, le Pixar qui débarque sur Disney+. On parlera aussi du Tigre Blanc sur Netflix, de Paradise Hills sur Prime Video et d'Underwater sur MyCanal avec notamment Vincent Cassel et Kristen Stewart. Voilà pour le programme de Clap, votre émission cinéma. Et tout de suite, donc, place à notre récit consacré au dialogue signé Jacques Audiard. Pourquoi sont-ils toujours autant d'actualité?
Europe 1. Le récit.
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Pour comprendre les dialogues signés Michel Audiard, il faut d'abord se replonger dans sa biographie et voir d'où il vient. Michel a grandi dans les années 20, dans le 14e arrondissement de Paris, quartier alors très populaire. C'est là que chaque jour, autour de lui, il entend ses répliques pleines de gouailles qui vont l'inspirer des années plus tard. C'est son parrain qui l'élève et le jeune Audiard n'est pas très intéressé par les études, même s'il finira par passer un CAP de soudure. Après la Seconde Guerre mondiale, à laquelle il ne participe pas, Audiard vivote, il enchaîne les petits boulots, livreur de journaux notamment, et même critique de cinéma. Mais ce qu'il aime, lui, c'est parler, discuter avec tous ceux qui peuplent son quartier populaire. Commerçants, chauffeurs de taxi, concierges, ces gens du peuple le fascinent. Il ne le sait pas encore, mais Audiard est déjà en train de travailler à ses premiers dialogues, et puis son inspiration notamment dans les bistrots. Écoutez-le sur Europe 1.
J'y vais le plus souvent possible parce que je m'y détends, je m'y amuse. Si le bistrot continue dans l'évolution actuelle, c'est-à-dire vers le plastique, le néon, le jukebox et la télé, je crois qu'il est condamné à mort. Il faudrait revenir aux zincs d'autrefois, aux petits bistrots intimes.
En parallèle, Audiard s'intéresse à la grande culture. Il admire Rimbaud, Prévert, Céline aussi. L'un des seuls regrets qu'on lui connaisse est de ne pas avoir eu le temps d'adapter au cinéma « Voyage au bout de la nuit ». Audiard disait « C'est en écoutant Prévert que je me suis dit, tiens, il y a un langage cinématographique. S'il n'y avait pas eu Prévert, je n'aurais certainement jamais écrit pour le cinéma. » Mais c'est en 1949 qu'Audiard glisse son premier pied dans le 7e art. Le réalisateur André Unebelle, qui réalisera plus tard notamment Fantomas, lui commande le scénario d'un film policier, Mission à Tanger, avec notamment au casting Louis de Funès.
Mais permettez-vous esta danse?
Oh, ce sera avec plaisir, général. Mais je n'ai pas encore dîné, excusez-moi. Tout à l'heure, pour un tango de préférence.
Sus deseos son órdenes.
Quand on voit la gueule de certains militaires, ça ne donne pas envie de faire le zouave.
Que c'est un tango?
Después de comer, yo junto. D'ailleurs, ce n'est pas un tango.
Excusez-moi.
Le chef de
l'orchestre qui ne joue plus de tango. Jusqu'à la fin du mois.
Mais la carrière de Michel Audiard n'aurait sans doute pas été la même s'il n'avait pas rencontré quelques années plus tard un certain Jean Gabin. Qui incarne mieux que lui le titi parisien, gouailleur? Première collaboration entre les deux hommes, Gazoïle. Au début des années 50, Jean Gabin donne la réplique à Jeanne Moreau.
En temps, les femmes restaient à la maison, elles faisaient la cuisine, elles faisaient le ménage, elles repassaient, elles faisaient les cuirs. Mais aujourd'hui, elles votent et elles lisent la série noire. Alors, résultat.
Résultat?
Eh ben, résultat, elles sont refilées des pommes pas mûres ou des pommes pourries. Et on veut pas des pommes.
Eh ben, laisse-les. Quand je pense que j'ai pris un amant au lieu d'un mari pour me distraire, eh ben, on peut dire que le péché ne paye pas.
Mais vous n'avez pas toujours dit ça, vite donc.
Jean Gabin jouera dans 17 films signés Audiard. Dans le coffret édité par Gaumont, on retrouve notamment Un Saint-Jean-Hiver, sorti en 1962.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
On peut aussi parler du Pacha, l'histoire du commissaire Joss, qui, pour venger un ami mort dans un hold-up, met deux bandes de malfrats sur la même affaire. Objectif, qu'ils s'entretuent.
À quoi tu penses?
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Alors c'est vrai, il y a un côté un peu jouissif pour le public à entendre ces phrases crues, directes, et ça, Audiard l'a bien compris, et ses punchlines assumées, ce sera sa marque de fabrique. Dans ses films, les hommes jouent souvent des caricatures d'hommes, et les femmes des caricatures de femmes, ce qui lui vaudra d'ailleurs les foudres de la nouvelle vague qui méprise ce cinéma à la papa. Lui s'en fiche et préfère laisser Truffaut ou Godard à leurs amourettes à plusieurs, c'est pas son truc. Il en parlait d'ailleurs au micro d'Europe 1.
Je m'aperçois qu'avec l'âge, je deviens méchant. Et ça, je suis très content parce que jusqu'ici, j'étais peut-être un petit peu trop gentil dans mes sujets. Alors maintenant, je commence à camper des personnages plus grinçants. En général, je fais des personnages sympathiques avec des petits bons hommes. C'est des petits ouvriers, des petits prolos, des gens de la rue. En général, les gens antipathiques sont des gens importants. Ce sont des commissaires de police, des agents immobiliers, des gens qui ont pignon sur rue. Parce que ceux-là, je crois qu'on peut tout de même les... Je ne veux pas dire les insulter, mais les tourner en ridicule. Quand je fais des films purement comiques, on me dit qu'ils sont... Des fois, on me dit que c'est un film poujadiste, une autre fois, c'est un film fasciste. Alors, si je me mets à aborder les problèmes sérieux, ça va devenir très embêtant.
Notez d'ailleurs que lorsque la nouvelle vague commence à s'essouffler à la fin des années 60, le style Michel Audiard, lui, a le vent en poupe, même dans les années 70. Alors bien sûr, on ne peut pas parler d'Audiard sans parler de son plus grand succès, Les Tontons Flingueurs, signé Georges Lautner, avec notamment Lino Ventura, Claude Riche et Bernard Blier. Un film dont les répliques sont restées cultes 50 ans après. D'ailleurs, des centaines de sites internet s'amusent à les répertorier.
Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux.
Fumière.
Écoute, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdowns. Comme on dit de nos jours.
Mais est-ce que vous avez noté que toutes ces punchlines, on les a retenues aussi parce qu'elles fonctionnent toujours aujourd'hui? Audiard était déjà très moderne dans son époque. Alors on est sans doute un peu nostalgique aussi de ces hommes qui picolent, fument, s'engueulent avec un langage fleuri. Attention cependant, il ne faut pas réduire Audiard à son sens de la formule, car à travers ses films, il parle aussi de politique et de questions toujours d'actualité. Dans Le Président, par exemple, d'Henri Verneuil, Audiard dépeint les dirigeants comme étant des hommes complètement déconnectés.
On est gouverné par les lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne seraient seulement pas foutus de faire pousser des radis.
Aspect que l'on retrouve d'ailleurs dans Les Tontons Flingueurs.
Au fond, maintenant, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. L'époque serait
aux tables rondes et à la détente. Hein ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Dans le film Les Grandes Familles, c'est le patronat qui en prend pour son grade, notamment à travers cette scène jouée par Jean Gabin et Pierre Brasseur.
Nous avons de l'argent tous les deux. Toi, tu représentes le patronat, moi le capitalisme. Nous votons à droite. Toi, c'est pour préserver la famille. Moi, c'est pour écraser l'ouvrier. 10 couples chez toi, c'est une réception. Chez moi, c'est une partouze. Et le lendemain, si nous avons des boutons, toi, c'est le homard, moi, c'est la vérole. Hein?
Mais alors, comment Audiard trouve-t-il son inspiration, ce sens de la formule? Est-ce réfléchi, écrit? Non, si on veut bien le croire en tout cas, écoutez ce qu'il en disait au micro d'Europe 1.
Ah oui, parce que ça, il y a des gens qui cherchent et qui trouvent. Moi, si je cherche, je suis sûr de ne pas trouver. Alors ça, faut que je trouve tout de suite ou je trouve jamais.
Alors, ça, il y a des jours où ça fuse et il y a d'autres jours où il n'y a rien à faire.
Hein. Ah oui, il y a des jours, la feuille de papier, alors il n'y a rien à faire, ça ne vient pas. Mais d'ailleurs, j'insiste plus parce que je commence tout de même à me connaître depuis le temps que je me fréquente. Alors j'arrête, quoi. Je me mets à mon boulot à 8h, 8h30 le matin. Et puis, si c'est pas venu, ben j'arrête les frais. Tandis que si ça vient bien, par contre, je continue.
Une chose est sûre, ces dialogues de Michel Audiard ont marqué toute une génération de scénaristes et dialoguistes. Michel Audiard disait d'ailleurs « Dialoguiste, c'est le seul boulot du cinéma qui ne s'apprenne pas ». Alors justement, qu'en est-il aujourd'hui du métier de dialoguiste? Est-ce qu'il n'est pas un peu délaissé au profit du scénariste? Et puis, comment écrire des dialogues dans l'air du temps? On posera toutes ces questions dans un tout petit instant à notre invité Thomas Bideguin, qui a beaucoup travaillé avec Jacques Audiard, le fils de Michel. Mais d'abord, j'avais envie qu'on écoute la bande originale du film « Ne nous fâchons pas », signé Georges Lautner, scénario de Michel Audiard notamment. La musique est de Bernard Gérard.
14h-15h sur Europe 1. Clap, Mathieu Charrier.
La bande originale du film « Ne nous fâchons pas » signé Bernard Gérard dans Clap, votre émission cinéma sur Europe 1. Dans un tout petit instant, j'accueille le scénariste et réalisateur Thomas Bideguin pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui le travail de dialoguiste. Restez avec nous.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on continue de parler aujourd'hui dans Clap de Michel Audiard et plus largement de son métier de dialoguiste. Pour poursuivre notre réflexion sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Thomas Bideguin. Bonjour.
Bonjour.
Scénariste, vous travaillez régulièrement avec Jacques Audiard, notamment sur Dipane de Rouillé d'Os, par exemple. Vous êtes également réalisateur, je pense à votre film Les Cowboys. Alors, je le disais tout à l'heure, Michel Audiard déclarait « Dialoguiste, c'est le seul boulot du cinéma qui ne s'apprenne pas ». Est-ce que vous confirmez ?
Je suis assez d'accord avec ça, même si je pense que ça a beaucoup changé depuis l'époque de Michel Audiard. C'est-à-dire que c'est plus difficile peut-être à cause des comédiens. On n'a pas le même genre de comédiens, on n'a pas accès à des Gabin, des Ventura, parce que vous voyez, les dialogues c'est comme des costumes, il faut pouvoir les porter.
Quand vous dites que ça a changé à cause des comédiens, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui c'est plus compliqué de leur faire dire certaines choses ou...
Oui, c'est moins pittoresque, vous voyez. Puis c'est les personnalités peut-être moins fortes quand vous avez un Gabin. Vous savez, Michel Audiard, il écrit pour Gabin à la deuxième partie de la vie de Gabin. Ils se rencontrent après-guerre. Et donc, c'est un Gabin qui est déjà très affirmé, vous voyez. C'est la même chose pour Blier ou Gras. Quand Michel Audiard écrit pour eux, c'est des personnages très affirmés. Et donc, ils vont avoir toutes sortes de métiers dans les films, toutes sortes de personnalités, mais à la fin, ça sera toujours Blier, Ventura et Gabin.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours des dialoguistes? C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a un métier qui intervient sur les scénarios, spécifiquement sur les dialogues, ou est-ce que c'est, dans la majorité des cas, dévolu aux scénaristes?
Non, dans la grande majorité des cas, c'est dévolu aux scénaristes. Mais ça arrive de temps en temps, parce qu'il y a quand même un sens de la formule, on aime bien ça, les répliques dans les films, quand même. Donc de temps en temps, moi, ça m'est arrivé de travailler sur les dialogues d'un film, par exemple. On ne pouvait pas toucher à la structure, mais il fallait résumer, voilà.
Lequel, par exemple?
C'était un film sur les bateaux avec Cluzet.
Ah, en solitaire.
En solitaire, exactement.
Ah, vous aviez...
Il y a peu de dialogue, hein, il voyage en solitaire. Mais je me souviens qu'on m'a fait intervenir là-dessus pour effectivement donner un peu plus de chair au personnage.
C'est-à-dire que dans ces cas-là, vous recevez le scénario et on vous dit, faut prendre...
Le scénario, on me dit, voilà, on ne touche pas à la structure. On est content de la structure. Par contre, les personnages manquent un peu de chair, manquent un peu de personnalité. Tout ça manque un peu de vie. Est-ce qu'on peut rajouter, simplifier, rendre les choses un peu plus fortes, voyez.
Et vous, comment vous travaillez dans ces cas-là? Parce que sur ce film-là, par exemple, il faut connaître un petit peu l'univers de la voile.
Il faut connaître un peu l'univers de la voile, mais c'est surtout quand vous faire ça, voyez, l'idée, c'est vraiment de travailler sur les personnages. Donc voilà, il faut surtout saisir la personnalité, trouver quelque chose de saillant chez un personnage, voyez.
Parce qu'on a l'impression que c'est vrai qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup peut-être les histoires ou l'arc narratif, la personnalité du personnage, mais que les dialogues, ça vient un petit peu en dernier. Finalement, on trouvera quoi leur faire dire après. C'est le cas ou pas?
Non, je pense que ça vient ensemble. Mais ce qui est vrai, c'est que maintenant, souvent, les dialogues, et je vois, moi, je travaille comme ça aussi, les dialogues, on essaye de les déshabiller. C'est-à-dire de faire dire aux gens des choses simples. Il faut que ça soit... Il y a quelque chose de plus réaliste dans les dialogues. Vous voyez, quand vous voyez les tontons flingueurs, c'est très marrant, mais c'est pas du tout réaliste. Quand il y a un film de voyous, on voit plus vraiment les tontons flingueurs. Donc les gars vont parler. Mais vous voyez, les films, par exemple, Le Gang des Lyonnais ou des trucs comme ça, les gars parlent. Alors on leur met dans la bouche tout un vocabulaire comme ça. Alors c'est un peu folklore quand même.
Vous dites qu'il faut que ce soit peut-être plus réaliste aujourd'hui, pour que ça fonctionne et que ce soit crédible.
Exactement, plus réaliste, c'est ce que je veux dire par on déshabille les dialogues, c'est-à-dire qu'on cherche moins des mots d'auteur. Vous voyez, les mots d'auteur, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment ces dialogues-là qui sont difficiles à porter. Et, c'est un costume, il faut vraiment il faut pouvoir les porter, il faut une histoire qui puisse les porter. Donc généralement, c'est des histoires qui vont être imposantes et des personnages qui vont être imposants. Il faut au moins ça pour porter des mots comme ceux d'Audiard, par exemple.
Et est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il y a un appauvrissement des dialogues, un peu moins peut-être de poésie?
Aujourd'hui, je pense que les films tiennent sur autre chose. Vous voyez, les séries et les choses comme ça, ça tient sur l'histoire, essentiellement, mais pas vraiment sur les dialogues. Le cinéma d'Audiard, pour lequel j'ai un grand respect, mais ce n'est pas un cinéma qui produit des images, vous voyez, par exemple. Qui va produire des dialogues, il va produire des personnages, il va produire des rôles pour des grands comédiens, mais pas vraiment des images. J'ai l'impression que le cinéma, maintenant, s'appuie plus sur des images qu'il ne le faisait à l'époque.
Si j'élargis un peu, vous qui êtes un scénariste connu et reconnu, on dit souvent que le scénariste est un peu la dernière roue du carrosse, notamment en France, contrairement aux États-Unis, par exemple. Que c'est celui qui est un peu le moins bien traité, qui est le moins bien payé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce qu'il y a une vraie différence avec les Américains?
Il y a une vraie différence avec les Américains, oui, ça c'est sûr. Il y a une vieille blague qui dit, vous savez à quoi on reconnaît une actrice belge? C'est celle qui sort avec le scénariste. Voilà. C'est toujours un peu vrai quand même.
Et ça change, ça évolue?
Ça évolue, je pense que le poids de la télé fait changer les choses. L'idée des writer's room, vous voyez, pour les séries, l'idée des showrunners, alors, vous voyez, c'est que des mots anglais, hein, c'est pas étonnant. Et donc voilà, toutes ces idées-là, elles font un peu évoluer la conception, l'idée qu'on a du scénariste.
Si j'en reviens à Michel Audiard, comment vous expliquez que ces dialogues sont toujours aussi populaires aujourd'hui, que même des jeunes connaissent des répliques des Tontons Flingueurs ou d'autres films?
Parce qu'il a créé une mythologie, quelque chose qui n'existait pas avant lui. Si vous regardez le cinéma d'avant-guerre, vous voyez, vous allez voir, je ne sais pas quoi, Michel Simon, il y a déjà des répliques, il y a des grands scénaristes déjà avant-guerre. Mais lui, il va créer après-guerre quelque chose qui va déjà être empreint de nostalgie, déjà à l'époque. Vous voyez, quand vous voyez le président, quand vous voyez les Maigret, ou même les Tontons Flingueurs, c'est déjà des gars qui sont dans une époque, ça raconte ça, les Tontons Flingueurs. C'est des vieux de la vieille, déjà.
Ça vient comment, un bon dialogue, quand on écrit?
Souvent, ça, je pense que chacun a ses recettes. Moi, je sais que je les joue. Alors, je vois mes enfants qui traînent autour de mon bureau et ça, ils m'entendent trouver les répliques. Mais c'est pas là, c'est de la réplique. Il faut vraiment, je pense qu'il faut être vraiment dans le personnage pour pour être à ce moment-là. Effectivement, ça vient souvent tard. C'est-à-dire qu'on va masser une scène, on va trouver une situation et puis à partir à un moment, on va réussir à la résumer en deux mots. Mais voilà, ça demande du travail, ça.
Audiard, c'était aussi cette gouaille finalement dans les dialogues. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un héritage de ça, une espèce de langage populaire? On a l'impression que ça a disparu aussi dans le pays. Alors peut-être que c'est le langage des banlieues, peut-être.
Il y a ça, oui, il y a un langage des banlieues, ça c'est sûr, et qui donne une couleur. On voit ça beaucoup dans les films de gangsters, dans Bac Nord qui va bientôt sortir dès que c'est permis. Voilà, c'est des trucs où effectivement, ou dans les films marseillais, il y a ça, vous voyez. Il faut qu'il y ait un terroir. Il faut que ça pousse quelque part le dialogue. C'est vrai que quand on a des histoires avec des gens qui sont au café et qui fument des cigarettes, c'est souvent plus difficile.
Eh bien, merci beaucoup Thomas Bideguin d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap.
Ah ben, je vous en prie, tout plaisir est pour moi.
Et puis c'est l'occasion, ce confinement, de revoir des films. Alors pourquoi pas aller voir votre film comme réalisateur, Les Cowboys.
Ah ben voyez, ah ben, effectivement il est d'actualité.
Oui.
Non, et revoyez les films de Audiard, père et fils.
Ouais, les deux, c'est rarement décevant.
Voilà.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Clap en tout cas.
Non, je vous en prie, merci à vous.
Et nous on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de l'émission, le temps d'accueillir Charlotte Gainsbourg qui va répondre à notre questionnaire Les films de ma vie, et vous verrez notamment tous les films qui ont marqué sa vie. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Clap, votre émission cinéma. On en vient à notre séquence Les films de ma vie. Et aujourd'hui, c'est Charlotte Gainsbourg qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être là. Alors, j'ai commencé par vous demander votre premier souvenir de cinéma.
Ben, je sais que c'est Les Dents de la Mer, que ma mère m'a emmené voir sans savoir ce qu'elle nous proposait, ma sœur et moi. Mais je crois que j'avais 4 ans.
Ah oui.
Je crois, hein. C'est la date de sortie, il me semble que c'est 75.
Vous avez vu ça? Sortez tous de là!
Est-il vrai que la plupart des gens attaqués par des requins le sont dans 1 mètre d'eau à environ 3 mètres de la plage?
C'est exact. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait.
Ce requin, il avale tout ce qu'il voit.
Ça m'a traumatisé. À vie, la mer, pour moi, c'est fini.
C'est embêtant.
Ouais, c'est embêtant.
Votre meilleur souvenir en salle?
Oh, peut-être E.T.
Téléphone maison.
Je voudrais en trouver d'autres, mais je sais plus.
Mais c'est pas mal, E.T. déjà.
Oui, c'était un souvenir très, très, très marquant. Ouais.
Mon Dieu.
Téléphone maison.
Alors, ça veut dire qu'ils vont venir?
Oui.
Le film que vous auriez aimé voir au cinéma?
Oh, il y en a plein. Là, je pense au Troisième Homme, mais plein de films que j'ai découverts au moment des VHS.
C'était les VHS à l'époque.
Ouais. Ah ouais, désolé.
On n'est pas l'air si accablé. Au fond, tout ça n'a rien d'affreux. Tu sais ce qu'un écrivain a dit un jour? En Italie, durant 30 ans, ils ont eu les Borgia, la guerre civile et la terreur. On vous tuait pour un rien, mais ils ont produit Michel-Ange, Léonard de Vinci et la Renaissance. Tandis qu'en Suisse, ils ont pratiqué la fraternité. Ils ont connu durant 500 ans la démocratie et la paix, et ils ont produit une pendulette qui fait coucou. Au revoir, Johnny.
Le film que vous aimez, mais vous avez honte de l'avouer.
J'ai pas honte du tout. D'ailleurs, c'est ça mon souvenir le plus fort au cinéma, c'est Grease.
Ah.
Mais oui, parce que je crois que j'ai 7 ans ou 6 ans, je sais plus. C'est ça le souvenir le plus fort. Et aujourd'hui, je revois Grease avec mes enfants. Enfin, donc, c'est pas du tout un souvenir honteux, mais bon, il faut l'avouer quand même à mon âge.
Le Le film que vous avez le plus vu?
En fait, il y avait des films qu'on voyait tous les Noëls. Donc, Oliver Twist, mais la comédie musicale, tous les Noëls. Donc, c'est peut-être celui-là que j'ai vu.
C'est un rendez-vous.
Ouais.
La plus belle scène de cinéma selon vous?
Peut-être dans Casablanca, quand il est au piano. Ouais, Play It Again, Sam, peut-être.
Bonsoir, Sam.
Vous la regardez régulièrement ou...
Je l'ai beaucoup vu.
Où est Eric?
Aucune idée. Il n'est pas venu ce soir.
Quand va-t-il venir?
Oh, sûrement pas ce soir, je crois. Il est rentré chez lui.
Il part toujours aussitôt?
Oh, ça dépend. C'est-à-dire, il a quelqu'un au perroquet bleu. Il y est tout le temps fourré.
Vous saviez mieux mentir autrefois. Jouer, comme le temps passe.
Je m'en souviens plus, mademoiselle. C'est tellement loin, tout ça.
C'est à peu près ça. La 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 la. La 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 la. Chantez ça.
You must remember this. A kiss is just a kiss.
Le film qui vous fait le plus rire, Charlotte Gainsbourg?
Je pense que Le Père Noël est une ordure, mais la pièce, en fait, la pièce filmée, c'est un des films qui me fait le plus rire, mais aussi les Monty Python, quand même.
Garde ! Le prince restera dans sa chambre jusqu'à ce que je vienne le chercher.
Il ne quittera pas sa chambre, même si vous venez le chercher.
Non, non, jusqu'à ce que je vienne le chercher.
Jusqu'à ce que vous veniez le chercher, nous n'entrerons pas dans sa chambre.
Non, non, non. Restez dans la chambre en vous assurant que lui ne la quitte pas.
Et vous viendrez le chercher.
Exact.
On n'a absolument rien à faire à part de l'empêcher d'entrer dans la chambre.
Non, non. Quittez la chambre.
Quittez la chambre, oui.
Vous restez ici et vous vous assurez qu'il ne quitte pas la chambre. D'accord?
Ah ouais. Oh oui, je me rappelle. Est-ce qu'il peut quitter la chambre avec nous?
Non, 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 non. Vous n'avez qu'à le garder ici et vous assurer.
Oh oui, nous le garderons ici, c'est très clair. Mais s'il doit quitter et qu'on est avec
Écoutez,
lui...
Écoutez, vous le gardez ici.
Jusqu'à ce que vous ou n'importe qui
non,
d'autre...
Non, pas n'importe qui d'autre que moi.
Que vous.
Je reviens.
Que vous reveniez.
Pour finir, la bande originale qui a le plus marqué votre vie, Charlotte Gainsbourg?
Oh, je pense que c'est Drugstore Cowboy. Parce que c'était le père de ma sœur, Kate, John Barry. Et c'est une bande-son géniale, géniale.
Prêtez au jeu, Charlotte Gainsbourg.
De rien.
Nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de Clap. On va accueillir mes collègues critiques et on va débattre des films sortis sur vos plateformes ou en DVD VOD.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et j'ai maintenant le plaisir d'accueillir pour cette dernière partie de Clap mes collègues critiques pour débattre des films qui sortent sur vos plateformes ou en DVD VOD. Aujourd'hui dans le studio, Caroline Vier de 20 minutes et Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathieu.
Bonjour Mathieu.
Vous faites ça bien. On va parler ensemble du Tigre Blanc qui débarque sur Netflix, de Coco, et oui, qui était sorti il y a 3 ans, le dernier Pixar, enfin, c'était le dernier à l'époque, depuis on a eu 2 autres, et qui arrive enfin sur Disney+, chronologie des médias oblige. On débattra aussi de Paradise Hills sur Prime Video et d'Underwater sur MyCanal avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, notamment complètement emprisonnés sous l'eau. Vous verrez ça. Mais d'abord, donc, disons quelques mots du Tigre Blanc qui arrive sur Netflix.
Moi, Balram Alwai, je conduisais la voiture. J'étais seul dans la voiture. Ils m'ont fait signer leurs aveux.
Pourquoi vous le traitez de cette façon? Pourquoi vous le maltraitez comme ça?
T'es mon chauffeur, tu travailles pour moi.
Il me fallait devenir la créature qui ne naît qu'une fois par génération.
Le Tigre Blanc.
C'est donc adapté du best-seller de Aravind Adiga, j'espère que je le prononce bien, et c'est l'histoire de Balram.
Non, vous le prononcez pas bien.
Comment on dit ?
Je ne sais pas, mais vous le prononcez
merci,
pas bien.
Ça commence.
D'office.
Un jeune garçon qui grandit donc dans un village très pauvre de l'Inde, sans eau ni électricité. Pour s'en sortir, il se fait embaucher comme chauffeur dans une famille riche, c'est le moins qu'on puisse dire. Le voilà donc au service de Ashok. Vous imaginez, fils à papa, sa femme qui s'appelle Pinky. Il rentre tout juste des États-Unis. Un jour après le drame, dont il n'est pas responsable d'ailleurs, je ne vous en dis pas beaucoup plus, et Babalram décide qu'il n'a plus sa place comme domestique. Grâce à son ingéniosité, il va peu à peu s'affranchir de ses maîtres et devenir un brillant entrepreneur surnommé le Tigre Blanc. Bon, on est entre satire, thriller politique, Fabrice me regarde du coin de l'œil, je vais d'abord donner la parole à Caroline Vier.
Quelle bonne surprise que ce Tigre Blanc, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ça, je trouvais ça très drôle. Extrêmement méchant, très sombre. Donc ça se passe en Inde dans les années 2010, à une époque où l'Inde était en train de se réinventer. J'ai trouvé ce personnage très attachant. Ce qui est d'autant plus étonnant que c'est un véritable salopard qui est absolument dépourvu de toute forme de scrupules. Donc je me suis identifiée, voilà, on ne va pas dire le contraire. Et je me suis beaucoup amusée. Je recommande ça à 300%.
Pour toute la famille, le soir, dans le canapé.
Alors, pas tout à fait pour les petits-enfants, on ne va pas dire ça comme ça, mais en revanche, c'est féroce, ça fait du bien. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec Bollywood, c'est ça qui m'a plu aussi. Mmh. C'est plus proche du cinéma indépendant indien. C'est vraiment une grande, grande réussite par le réalisateur de 99 Homes, qu'on avait déjà beaucoup apprécié, qui avait fait aussi une belle adaptation de Fahrenheit 451.
Mon cher Fabrice, Tigre Blanc.
Alors surtout, il ne faut vraiment pas s'attendre à voir Slumdog Millionnaire, parce qu'on n'est du tout dans cette optique-là, même si le film est un peu vendu comme ça. Je suis assez d'accord avec Caroline, mais que le film est sombre. Oula, oui, c'est féroce, oui, c'est méchant, mais c'est surtout extrêmement sombre. Ça montre l'Inde telle qu'on l'a rarement vue, une Inde moderne, moitié totalement misérable et moitié totalement Los Angeles et clinquante. Vraiment, c'est un film très étonnant, très, très, très touffu. Non, j'ai beaucoup aimé, on se laisse emporter.
Mais c'est marrant parce
qu'il y a une scène épatante où le gars se brosse les dents pour la première fois, donc c'est un adulte, hein, on ne parle pas d'un gamin, et il découvre le plaisir de se brosser les dents. C'est une scène que j'ai trouvée merveilleuse, qui est dans le bouquin aussi, hein, et totalement bouleversante.
Mais c'est étonnant parce que ce n'est pas forcément le film, c'est vrai, le soir quand on se pose dans son canapé et qu'on allume Netflix.
C'est pour ça que je voulais rebondir, parce que ce n'est pas un film pour toute la famille, hein, c'est quand même assez violent, assez sombre, et ça raconte l'Inde contemporaine d'une manière assez violente.
Il y a beaucoup d'ironie aussi dans la façon, la voix off du personnage, c'est surtout très méchant, quoi. C'est vraiment un film méchant.
Et puis il y a Priyanka Chopra qu'on avait découvert dans Quantico et que moi j'aime beaucoup, je vous le dis.
Moi aussi. Hein,
que dire de plus ? Allez découvrir le Tigre Blanc qui débarque donc sur Netflix. Je voulais aussi, les amis, qu'on parle, parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque, de Coco. Coco, c'était un Pixar sorti il y a 3 ans et chronologie des médias oblige, il arrive enfin sur Disney+.
Je sais, je devrais pas aimer la musique, mais c'est plus fort que moi. J'ai la musique dans le sang.
Moi, je serai musicien.
Les musiciens sont égoïstes et irresponsables.
On a dit plus de musique. Tu vas écouter ta famille.
Pas de musique.
Pas de musique.
Depuis que je suis née, il y a une chose qui fait que je me sens différent. Et je ne savais pas d'où ça venait.
On ne peut pas renier sa véritable destinée.
Coco, c'est l'histoire de Miguel, notre jeune héros, il a 12 ans, nous sommes dans un petit village mexicain en pleine fête des morts, Dia de los Muertes, une tradition au Mexique. Et Miguel, figurez-vous, rêve de devenir musicien comme son idole qui s'appelle Ernesto de la Cruz, sauf que dans la famille de Miguel, la musique est bannie. Il faut dire que l'arrière-grand-père qui était musicien était parti avec sa guitare sous le bras, abandonnant femme et enfant. Et donc un jour, il y a un concours de chant qui est organisé sur la place du village. Miguel veut y participer, vole la guitare d'Ernesto de la Cruz qui est dans son caveau, ce qui déclenche une malédiction et il se retrouve dans le royaume des morts. Alors il va vivre toute une aventure, notamment avec Hector, ça c'est un gentil squelette, découvrir aussi son histoire familiale. Il faut rappeler que ce jour au Mexique, c'est un jour où on honore les morts et on estime que si on ne les célèbre pas à ce moment-là, il meurt une deuxième fois.
Voilà, c'est un jour très joyeux finalement.
Très joyeux, on fait la fête, c'est très coloré.
Oui, c'est dans les cimetières, on fait des pique-niques et tout ça pour que les morts participent pendant une journée à la vie des vivants.
On se grime en squelette.
Coco, les amis, Caroline.
C'est épatant. J'ai pleuré comme une grosse vache, hein, on va pas se mentir.
Comme une Madeleine, normalement.
Comme une Madeleine, c'est mieux.
Je suis désolée, c'est pas la
même. Vous ressemblez plus à une Madeleine qu'à une grosse vache, en plus.
Fabrice, je vous aime. Je vous épouserai à la fin de l'émission, mais en attendant, oui, c'est bouleversant. C'est bouleversant, c'est magnifique, parce que ça reprend évidemment toute l'imagerie de la fête des morts, avec ses squelettes très colorés, ses maquillages formidables.
C'est pas triste, faut le dire.
C'est pas triste du tout, c'est une belle histoire d'amour familial, très émouvante, vraiment. L'un des réalisateurs est mexicain et raconte la vie de sa famille. J'ai été emballée par ce film, c'est un des plus beaux Pixar, dans les Pixar récents, à mon sens.
Fabrice ?
Moi, j'ai vraiment l'impression, à chaque fois qu'un Pixar sort, de dire la même chose, et je vais redire la même chose, je suis fasciné par la propension qu'a le studio dirigé par Disney d'aller chercher des sujets totalement fous. C'est un film sur la mort. Moi, c'est un film où j'ai beaucoup plus pleuré que ri, et je me dis à chaque fois, mais qu'est-ce que les enfants vont pouvoir trouver là-dedans ? Et oui, ils ont toujours ce génie de pouvoir raconter une histoire triste, une histoire forte, on parle de famille, de mort, on parle de cette célébration de la mort aussi qu'on ne connaît pas du tout nous dans notre culture, dans notre civilisation. Et puis voilà, et puis ça passe comme une lettre à la poste, c'est brillamment fait, la musique est extraordinaire, les couleurs, les décors, le dessin, tout, voilà. Bon.
C'est galvanisant comme film, c'est un film à voir en famille, tous les âges, là pour le coup, les enfants sont emballés, ils sont émus, mais pour autant, pas traumatisé, oui. C'est splendide.
Vous dites un Pixar comme si c'était gage de qualité. Je vous rappelle qu'entre celui-là et Soul, il y a quand même eu un Pixar qui était très très moyen. En avant, non, ça s'appelait
oui.
Mon souvenir.
C'est pas si mal quand même en avant.
Il y a des Pixar qui sont très en dessous, mais on regarde quand même toute la production de Pixar, de Wall-E à Toy Story, en allant jusqu'à Ratatouille, Coco et Soul ces derniers mois.
Il peut y en avoir d'un peu plus faible, mais enfin quand même, c'est jamais nul. Hein,
bon,
Pixar.
Ben voilà, on ne peut pas dire de mal de Pixar dans cette émission.
Ah ben non.
Voilà donc pour Coco sur Disney+, on a aussi parlé du Tigre Blanc sur Netflix.
Clap.
On en vient les amis, Paradise Hills, c'est sur Prime Video.
Bonjour Uma. Je ne voulais pas t'effrayer. Ton petit déjeuner est prêt.
Le petit déjeuner ? Mais je suis où, là ?
Tu es au paradis, bien sûr.
Des nouvelles ?
Écoute, j'ai besoin d'aide, ok ? Ils me poursuivent et j'ai besoin d'un endroit où me cacher. Je sais même pas comment je suis arrivée là.
Viens avec moi.
C'est quoi cet endroit ?
Vous avez perdu quelque chose ?
Que tu fais ? Non.
Alors Uma, notre personnage, se réveille sur un matelas isolé dans une chambre joliment décorée. Où est-elle ? Que fait-elle ici ? Tout est très beau, tout est très fleuri. Les filles portent de jolies robes, comme dans Alice au Pays des Merveilles. On se croirait un peu dans un conte. Mais rapidement, Uma va déchanter et comprendre qu'il s'agit en fait d'un centre de redressement pour jeunes filles à marier. La terrible directrice qui est interprétée par Mila Jovovich veut écraser leur personnalité pour les formater en jeunes filles parfaites, bonnes à marier, je le disais. Et notre héroïne va donc tout faire pour s'échapper. On est dans le conte, évidemment, très contemporain. Fabrice ?
On est dans le film d'anticipation, parce que la femme a perdu toute velléité à être femme et à revendiquer son statut de femme et sa liberté d'être femme. Alors, c'est un film plastiquement absolument superbe. Je crois que je n'ai pas vu des décors comme ça, une photo comme ça, une lumière comme ça depuis des lustres. C'est un film absolument étonnant. Il faut savoir que c'est un film espagnol qui est réalisé par une jeune réalisatrice espagnole, d'ailleurs, qui a un nom anglais, mais elle est espagnole. Et puis voilà quoi. Malheureusement, après les beaux décors, on comprend vite le twist qui va arriver et le deuxième qui va arriver, parce qu'elles ne savent pas vraiment où elles sont. On est dans la science-fiction matinée de... Vous voyez, c'est un peu comme si Stalker avait été tourné par David Hamilton. Vous voyez, si je résume. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas la longueur. Et ça reste un objet, voilà.
C'est un peu bébête, non ? Enfin, c'est le côté David Hamilton. C'est ça.
J'en déduis que vous n'avez pas aimé.
J'ai pas été emballée du tout, et on peut dire ça comme ça. C'est joli, oui, voilà. C'est beau, les images sont belles. Ce qui est
déjà pas mal. C'est pas toujours le cas.
Il y a des fois où, en plus, les images ne sont pas belles. C'est un peu ennuyeux aussi.
Oui.
On va pas, voilà.
Mais toute la réflexion sur la servitude des jeunes femmes.
Mais on attend, on l'aimerait peut-être dans le numéro 2.
Alors certainement, oui, c'est bien de dire que les femmes ne doivent pas être asservies. Ça, je pense que c'est bien, mais oui. Si, je vous assure, Fabrice, on en reparlera après l'émission. C'est tout à fait bien. Mais il y a rien de tout ça dans ce film.
D'accord. Là, on est d'accord. Il y a rien de tout ça dans ce film.
On pourra en parler après si vous le souhaitez. Enfin, on comprend pas bien l'intérêt de ce film, en fait.
Bon, on va passer vite alors.
Absolument.
Allez, Paradise Hills, c'est sur Prime Video. Dernier film dont on débat aujourd'hui. On part sous l'eau, les amis, avec Underwater qui débarque sur MyCanal.
Écoutez-moi.
écoutez attentivement. Vous vous trouvez maintenant à 8000 km de la côte et vous descendrez sous l'océan jusqu'à 11 km de profondeur. On se revoit dans un mois.
Voilà, on y est.
Sur une échelle de 1 à 10, à quel point c'est grave ?
10 !
Alors, Underwater, on est dans le survival movie, vous savez, c'est des films qui n'ont aucun autre intérêt que de savoir si les protagonistes de l'histoire vont s'en sortir ou non. On sait toujours qu'il y en a quelques-uns qui vont mourir, quelques-uns qui vont s'en sortir. Et bon, on attend de savoir lesquels. Alors, en l'occurrence, on retrouve nos héros qui vivent à plusieurs centaines de milliers de mètres sous l'eau dans une sorte de station scientifique qui, un jour, vous me voyez venir, se retrouve très secouée, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce un tremblement de terre ? Est-ce un monstre sous-marin ? Vous le découvrirez. En tout cas, c'est parti pour 1h35 sous l'eau. Il faut essayer de rejoindre les plateformes, mettre les combinaisons pour s'en sortir. On est véritablement avec eux, on étouffe sous l'eau. Moi, je garde un souvenir de ce film, c'est celui-là, celui d'étouffer avec eux sous l'eau. J'en garde un souvenir pas désagréable. Caroline ?
Je dois avouer que je l'avais un petit peu oublié.
Oui, quand je vous ai dit Underwater, vous m'avez dit je ne l'ai pas vu.
Non, non, je l'ai vu. Et en fait, j'ai honte.
C'est l'âge.
J'ai honte, oui, c'est le grand âge. Vous savez ce que c'est, hein, Fabrice, vous êtes bien placé pour le savoir. J'avais bien aimé, en fait.
Ah,
c'est une petite série B d'horreur des plus sympathiques qui ne se prend pas trop au sérieux. Alors, ça se passe sous l'eau. Ils n'ont jamais vu une goutte d'eau. Hein. En fait, tout a été fait en post-production.
Ah, oui.
Il y a des petits monstres,
vert,
un petit peu cthulhiesques, enfin, un petit peu Lovecraft, qui sont mignons comme tout. Christian Stewart est très bien. Vincent Cassel est très bien aussi. C'est vraiment une chouette série B. Voilà, on sait ce qu'on va voir. Si on a envie de voir une série B d'horreur, ça remplit, ça coche toutes les cases de façon très professionnelle. C'est ni plus ni moins.
Et pourquoi pas aller revoir ou Abyss ou Alien qui sont totalement photocopiés dans le film ?
Bah parce qu'on l'a déjà vu 15 fois et qu'on peut avoir envie de voir autre chose.
Oui.
Voilà, c'est une bonne...
Je m'excuse, mais Kristen Stewart et Vincent Cassel, c'est quand même un peu un mariage contre nature entre Steven Seagal et Isabelle Huppert. Non, moi je trouve que ce film ne raconte rien, que c'est ultra balisé,
qu'on
sait qui va se passer. Qu'il y a le mec qui vient faire 2-3 blagues toutes les 2 scènes et demie.
Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une très...
Un film sous l'eau, c'est un film qui, comme le dit Mathieu, doit donner de la difficulté à respirer.
Ah, j'ai trouvé qu'il y avait une gentille petite difficulté à respirer. Puis les petits monstres sont très bien. Et à point de vue production design, comme on dit en français, franchement, c'est extrêmement bien fichu.
C'est quand même 20 000 lieues sous la mer. Hein.
Oh, c'est petit, ça. Écoutez, ça dépend ce qu'on veut dans la vie.
Oula,
si on veut du grand cinéma, c'est clair qu'Underwater, c'est pas ce qu'on va chercher. Si on a envie de passer une bonne soirée un peu frissonnante...
Excusez-moi, quand il y a un film avec Vincent Cassel et Kristen Stewart, on se dit quand même qu'on n'est pas dans du blockbuster hollywoodien à la petite semaine.
Mais c'est parce que vous faites des illusions.
Mais non, que ces deux acteurs-là ne vont pas sur des films si plan-plan, si 10 fois vu, si photocopié de tout ce qui a été fait avant 10 fois mieux, franchement, non.
Bah, elle a commencé dans Twilight, Kristen Stewart, on ne peut pas dire qu'elle a fait...
Non, mais c'est pas un grand film.
Alors, j'aime bien être au milieu de
c'est
Caroline.
C'est même pas un petit film,
c'est une série B sympa.
Ce n'est pas un grand film, mais quand on rentre chez soi le soir, encore une fois, on branche My Canal, on regarde Underwater, on passe pas un mauvais moment.
Il y a plein de choses à la télé, il y a plein de séries, il y a plein de fiction, il y a plein de films à voir. Non.
Et dont Underwater, qui est sympathique si on a envie de voir une bonne petite série B d'horreur.
Underwater, c'est sur My Canal. Vous aimez rien aujourd'hui. Paradise Hills, faut bien qu'il s'occupe nos auditeurs.
Si, il aime le tigre blanc qui est formidable.
Voilà, le tigre blanc, Paradise Hills sur Prime Video. Le tigre blanc, c'est Netflix. Coco, c'est sur Disney+. Merci beaucoup les amis. Caroline Vier, 20 minutes, Fabrice Leclerc. Par image, je voulais aussi dire un mot très très rapide du festival Premier Plan d'Angers qui va commencer lundi. C'est un festival qui met en avant 2 jeunes réalisateurs. Malheureusement, évidemment, vous me voyez venir, ça n'a pas lieu dans les salles cette année. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vivre le festival d'un peu partout en France puisqu'il y a une édition numérique, donc vous aurez quelques projections numériques. Donc voilà, allez voir sur le site, tout vous est expliqué.
Il y a le festival de Gérard May, du film fantastique, qui sera aussi lui
pareil,
aussi
dans une semaine, c'est
dans
ça
une semaine.
Voilà.
Donc,
absolument, là on peut s'inscrire et voir.
C'est
ouvert
tristesse,
au public.
C'est à la fois la tristesse de ne pas découvrir tous ces films en salle et en même temps, du coup, il y a peu besoin de se déplacer.
Et tout le monde peut y avoir accès.
Exactement.
Et cette semaine, on devait tous être à l'Alpe d'Huez pour le festival de la comédie, du film de comédie qui est pour l'instant repoussé à fin mars.
On va faire de la comédie tout seul après l'émission.
Voilà.
On va se raconter des blagues.
Les amis, merci Jérémy Hébert qui réalise cette émission. Marjorie Adelson qui la prépare. Clap que vous retrouvez évidemment en podcast. Et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne, 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.